nous ne sommes pas sûrs. L'avis des GG, est-ce que pour vous, bon, bah, Pogacar a un peu brisé le suspense? Bah, tu commences, David, tu peux répondre à Christophe. Quel est ton regard?
Moi, je pense pas. Je pense plutôt au scénario de préparation de Vingegaard, qui est là en prépa. Et quand on fait une compétition de préparation, évidemment, t'es pas encore prêt. Et sur une course comme le Tour de France, qui est l'objectif principal d'un garçon comme lui, eh bien, il va arriver au meilleur de sa forme au mois de juillet et pas aujourd'hui. C'est même plutôt rassurant de le voir un ton en dessous aujourd'hui. Donc, rassure-toi, Christophe, tout est encore possible. Ouais. Le Tour de France va être magnifique et tu verras, il sera derrière sa roue, il va lui passer devant, il va lui piquer le maillot, il se repiquera le maillot. Mais en tout cas, s'il y a une chose qui est sûre pour moi, c'est que ça se passera entre les deux et personne d'autre.
Mais
entre
Pogacar et Vingegaard.
Après, Pogacar était un animal blessé. Ce qu'il a vécu contre la montre, c'était horrible pour lui.
Il a été vexé, c'est pas.
Oui, vexé. Durée, non, mais hier, tout le monde savait qu'il allait gagner hier. Tu regardais même les paris sportifs.
Vingegaard parvienne à s'accrocher au moins jusqu'à 2 km de l'arrivée. Il a pété à 10 km de l'arrivée.
On savait quand même qu'il allait tenter un coup, qu'il allait peut-être exploser tout le monde. Ça a été le cas. Mais moi, je suis comme David. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une étape qui va être significative.
Oui, c'est une vraie étape de montagne.
C'est une vraie étape de montagne. On va voir. Moi, j'attends ce soir. Si ce soir, Poggi roule sur tout le monde, évidemment qu'en juillet, c'est fini. Le tour sera pour lui.
Non, je suis pas d'accord. Mais il est prêt trop tôt. Poggi, il est prêt trop tôt. Et non, regardez toutes les classiques qu'il a. Les classiques, là.
Mais ça veut dire que l'autre est imbattable quand même. Si aujourd'hui,
Pogacar déjoue quand même tous les pronostics, que ça soit le fait qu'il fasse son premier Paris-Roubaix, le fait qu'il soit capable d'enchaîner deux grands tours.
Mais justement, il en a plein les pattes.
Ça donne pas l'air.
C'est pas ce qu'il a donné hier quand même.
Oui, ça donne pas l'air là maintenant, mais tu verras en juillet ce que ça va donner. Il va le payer tout ça. J'en suis sûr.
Il est totalement hors norme pour Gacha. Après, je suis étonnée que lui ait voulu tuer le critérium du Dauphiné libéré tout de suite, en fait. Parce que forcément, il montre son état de forme.
Il n'y a pas de calcul avec Poggi.
C'est ce que j'allais dire. En fait, il est juste pas calculateur. C'est ce qu'on a l'air de décrire de lui. C'est un mec qui adore la compétition, qui adore pédaler,
c'est son kiff.
Qui ne veut pas calculer comme ça peut l'être dans certaines équipes. Et donc, je vois pas comment Pogacar aujourd'hui n'est pas le grand favori. Et même si on attend que Vingegaard soit prêt,
Mais Vingegaard peut gagner aujourd'hui, par exemple.
Vous allez être surpris,
Christophe. Non, mais c'est une question simple.
Au vu de ce qu'il a montré hier, non, mais bon.
C'est déjà arrivé, évidemment.
C'est arrivé, il y a un jour un peu plus compliqué.
Ils sont encore en préparation,
mais il y en a certains qui ont l'air plus préparés que d'autres. Alors que Vingegaard se prépare depuis un an, quand même. Il a fait une course depuis un an. Donc, il devrait quand même arriver.
Même si Poggi, il veut écraser tout le monde, etc., c'est un hyper compétiteur, etc., il y a différents profils. Le profil de Vingegaard, c'est le gars qui est un peu, dans son cycle de préparation et qui n'a pas le même état d'esprit que Poggi et qui n'a pas la même motivation sur un tour que sur le Dauphiné. C'est évident. Je peux dire que le mental pour appuyer sur les pédales, ça compte. Et tu verras que le mental, il l'aura pour le Tour de France.
Je vais t'expliquer. C'est que j'espérais que Jorgensen, qui était donc le premier lieutenant de Vingegaard dans la montagne, puisse jouer d'égal à égal avec Pogacar et que les deux frelons puissent harceler comme l'avait fait Roglic et Vingegaard il y a quelques étés sur un Tour de France. Mais Jorgensen, il a pété encore plus tôt que son leader. Donc voilà, si tu veux, même si les lieutenants sont pas au niveau, on est mal barré.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. Tous les week-ends, de midi à 13h, c'est les Paris RMC.
Conseils, pronostics, meilleures cotes, préparez vos paris sportifs du week-end avec la Dream Team Sport RMC.
Les Paris RMC, le rendez-vous des parieurs, tous les samedis et dimanches, midi 13h, avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
La semaine prochaine, cap sur le Salon du Bourget, le plus grand rendez-vous aéronautique et spatial au monde, avec RMC. 2300 exposants, 150 aéronefs, des shows aériens spectaculaires et des expériences immersives à partager en famille. Explorez l'espace, découvrez l'aviation de demain, plongez dans les métiers qui font décoller l'industrie et partagez la passion des femmes de l'aéro et du spatial. Journée grand public les 20, 21 et 22 juin. Infos et billetterie sur siae.fr. Le Salon du Bourget, la semaine prochaine, avec RMC.
Pour vos pauses musicales, téléchargez l'appli RMC.
RMC vous offre aussi une radio digitale 100% musicale.
C'est RMC Gold.
RMC Gold. RMC, bien plus qu'une radio.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
0-40, 3 balles de titre. 3 balles de Roland pour Yannick Sinner.
Oh, oh là là, elle est pas partie.
Sinner.
Elle est pas partie.
40 ans. C'est dingue. 3 est... balles de match sauvées par l'Espagnol.
9 balles de match. 9-2, service gagnant. À 209.
Oh, 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 il finit sur un passif de coup droit, 40-40.
C'est incroyable.
S'achève sur un winner. Il pouvait pas en être autrement. Il a déjà serré la main de l'arbitre Sinner et il va aller vers son adversaire, vers son bourreau.
Au moment de monter sur le podium, il a donné une petite tape sur l'épaule de Yannick Sinner. On assiste au discours de Yannick Sinner. Il a dit Alcaraz avait mérité ses victoires. Il dit, je vais pas bien dormir ce soir.
Est-ce qu'on peut dire que c'est la plus belle finale dans laquelle on assiste depuis de sa naissance?
Il a dit, je sais pas, mais vous vivez ferré, mais je crois que j'ai gagné le dernier match sur terre battue.
Un homme debout, oui, Yannick Sinner, 5h29 de bonheur, 5h29 de frisson, 5h29 de tennis pur qui restera à jamais dans la légende de ce sport, on le savait. À la fin, il ne devait en rester qu'un et la pièce est tombée du côté de Carlos Alcaraz. Yannick Sinner fera toujours partie de cette légende aussi, mais du mauvais côté. Cette finale de Roland poursuivra pour longtemps la carrière de ces deux monstres qui ont pris officiellement, il faut bien le dire, dimanche dernier, le pouvoir et la relève des Nadal, Djoko et Federer. La musique qui fout les jetons et cette question. Peut-on se remettre facilement d'une telle défaite? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Facilement non.
Plutôt non.
Mais Sinner, oui.
Denis Charvet.
Pour Sinner, oui.
Ok. David Douillet.
Facilement, oui, oui, il s'en remettra. Mais il faut du temps.
Il faut du temps, Sarah Pitkowski.
Il faut du temps et moi je suis plutôt sûr il s'en remettra pas facilement. Donc je suis plutôt sur le non.
Plutôt sur le non, parfait.
Sur le non.
Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste tennis qui est toujours en lévitation. Hein. Il est toujours dans un rêve éveillé. Il était à Roland évidemment dimanche dernier. Eric Salio, bonjour Eric.
Salut les grandes gueules.
Alors, il faut le dire, Yannick Sinner, et on peut le comprendre, a eu besoin de couper un petit peu cette semaine.
Oui. Oui, mais on reste sur l'image supervisée dimanche dernier de Carlos Alcaraz qui tombe dans les bras de son coach Juan Carlos Ferrero alors que Yannick Sinner le regarde dans le vide, cherche encore à comprendre. C'était d'une cruauté absolue. Pas exubérant sur le podium, l'Espagnol a rendu un superbe hommage à son rival.
Chaque match que je joue contre lui est important. C'était notre première fois en finale de Grand Chelem. J'espère que ce ne sera pas la dernière. À chaque fois qu'on s'affronte, on élève tous les deux notre niveau de jeu. Si vous voulez gagner un Grand Chelem, vous devez battre les meilleurs joueurs de tennis du monde. Mais ce ne sera pas un tournant. Je suis sûr qu'il va tirer les leçons de ce match, qu'il va faire ses devoirs et qu'il reviendra plus fort la prochaine fois qu'on s'affrontera.
Play more Grand Slam finals.
Quant à l'Italien, qui n'a pas laissé couler la moindre larme, hein, il s'est montré d'une dignité assez incroyable en conférence de presse.
C'est dans ces moments que ma famille, les gens qui me connaissent, m'aident réellement. Parfois, c'est moi qui leur donne et parfois, c'est moi qui les sollicite. Aujourd'hui, c'est mon tour de solliciter le soutien de mes proches. Ils seront sûrement contents que je rentre à la maison en famille. Comme je l'ai toujours dit, avant le début de ma carrière, je n'aurais jamais pensé me retrouver dans cette position. Ce n'était même pas un rêve, c'était tellement lointain.
Et là, je me suis retrouvé à jouer la plus longue finale de l'histoire de Roland-Garros. Donc ça fait mal. Mais d'un autre côté, tu ne peux pas éternellement pleurer sur ton sort.
Après quelques jours dans ces montagnes du Haut-Tyrol, il est déjà arrivé à Halle pour jouer la semaine prochaine l'ATP 500 allemand. Lui, Alcaraz, il a fêté ça à Ibiza, comme l'an passé. Mais il va jouer le tour du Queens dès la semaine prochaine. Pour effacer le traumatisme, le numéro 1 mondial devra probablement vaincre de nouveau Carlitos. Le 13 juillet, sur le Center Court de Wimbledon, ce serait une idée de génie, mais rien n'est sûr. Goran Ivanišević a mis des années à faire disparaître de son cerveau 3 finales perdues à Wimbledon.
Merci beaucoup Eric Salio pour ces précisions. Évidemment, tu restes avec nous pour ce débat. Peut-on se remettre facilement d'une telle défaite? On s'empare de ce débat dans les grandes gueules du sport, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Pourquoi non, Sarah?
Pourquoi non? Alors, si on reprend le début de cette finale, l'un et l'autre n'avaient encore jamais perdu en finale de Grand Chelem. Ils avaient eu 100% de réussite. J'ai envie de dire, il allait en avoir un qui allait perdre sa première finale.
Fatalement, c'est le scénario.
C'est le scénario des balles de match du côté de Sinner qui rendent finalement cette question totalement légitime. C'est à deux doigts de gagner Roland-Garros et finalement d'avoir quelque chose qui t'échappe parce que t'as quelqu'un qui a joué un tennis. Je ne sais pas, c'est un extraterrestre qui s'est révélé pendant ce super tie-break. Mais quand on reprend ça, la difficulté pour Sinner, c'est il est en train d'accumuler des défaites face à Alcaraz et j'ai un petit peu peur quand je dis difficile de s'en remettre. Il y a la finale dans laquelle vous avez eu des balles de match. Et est-ce qu'il n'est pas en train, ou est-ce qu'il ne va pas y avoir une petite bête noire qui va se mettre entre Sinner et Alcaraz, comme il y a eu entre Federer et Nadal à Roland-Garros? C'est-à-dire que Federer n'y arrivait pas contre Nadal à Roland-Garros. Donc, est-ce que ce match-là ne va pas réveiller une sorte de dualité, d'une difficulté de Sinner de battre Alcaraz sur terre battue? Donc ça peut s'installer. Et puis alors, évidemment, quand on a un match comme celui-là, on va essayer de chercher dans l'histoire quelque chose qui ressemble. Et moi, le match référence que je suis allée chercher, c'est celui de 84 entre McEnroe et Lendl. Mmh. McEnroe, numéro 1 mondial. Lendl, numéro 2 mondial, qui n'avait pas encore gagné de Grand Chelem. Il mène McEnroe 2-7-0. Il a deux fois le break dans la troisième manche. Et puis bon, il fait du McEnroe, c'est-à-dire que pour
une faute d'arbitrage... Il n'a pas de balle de match.
Non, il n'a pas de balle de match. Mais il sort de son match, il insulte la terre entière. Finalement, il perd ce match-là. Il ne gagnera jamais Roland-Garros. Il dit aujourd'hui, c'est le pire souvenir de ma vie, ça me réveille encore. Si j'avais gagné, ma vie aurait été radicalement changée. C'est ce que dit McEnroe. Mais la même année, McEnroe, il perd. Mais il gagne Wimbledon, il gagne l'US Open et il gagne le Masters. Donc en fait, c'est
difficile. Donc ça n'est pas affecté.
Roland Garros reste quelque chose de très frustrant pour lui toute sa carrière, mais pourtant derrière, il fait une année, il fait quasiment sa meilleure année. Donc c'est pour ça que c'est difficile.
Donc t'es d'accord avec moi. Moi, je suivrai ton raisonnement s'il n'y avait pas eu le dernier set en fait, Tu sens que ça lui échappe le match à Sinner, mais malgré tout, il a le break, donc Alcaraz a un break d'avance. Il fait des breaks dans la cinquième, quand même. Le mec, il a perdu Roland Garros dans sa tête parce
qu'il a pas lâché.
Non, mais il a pas lâché.
On est au super tie break.
Il perd 3 balles de match. Il a 3 balles de match. Donc la coupe, il l'a eu, il a soulevé déjà. Mais tout d'un coup, mais qu'il arrive quand même à trouver les ressources morales pour aller le débreaker. J'ai trouvé ça monstrueux. Et il le débreak avec des balles, mais de folie. Donc tu te dis quand même, le mec, c'est un super champion. Donc ouais. Après, effectivement, il y a cette finale qui, en apothéose de super tie break. Donc je suis totalement contre parce que je trouve que ça enlève un piment terrible à une finale. Mais ça, c'est mon avis personnel.
Alors que moi, j'adore le super tie-break.
Mais après, le super tie-break, c'est presque anecdotique pour moi. Parce qu'effectivement, le Alcaraz, il vole. Il est en train de faire un truc que personne n'a réalisé avant. Mais Sinner, il est encore dans le match. Tu ne peux pas dire qu'il n'est pas dans le match. Même dans le super tie-break, il y a 7-0. Il reprend 2-3 balles. 2-3 points,
donc, tu nous refais l'analyse du match, en fait, là. On te parle de l'après, là.
Eh bien, moi, je te dis que Sinner, il va gagner Wimbledon, il va gagner l'US Open.
Oui, mais moi,
ce sera pas facile, mais il va le faire.
Il va y avoir un fantôme autour de Roland-Garros, entre Sinner et Roland-Garros.
Oui, mais ça ne va pas gagner derrière. Christophe, vous voulez te répondre, Sarah?
Non, pas me répondre. Non, je veux juste expliquer. Bon, vous êtes des anciens champions, donc vous savez ce que c'est. Vous avez un mental particulier, parce que pour se relever de ce genre de truc, il faut avoir un mental particulier. Moi, quand je perds une partie de tennis ou de ping-pong, la raquette, elle finit dans le grillage ou cassée sur la table. Donc moi, j'ai pas le mental pour faire ça. Mais vous êtes des gens un peu au-delà, au-dessus de la moyenne. C'est pour ça que vous êtes des champions. Et donc, le mental vous permet.
T'as du mental pour beaucoup parler.
Pardon, j'ai pas compris.
T'as du mental pour parler beaucoup.
Vas-y, continue.
J'ai de la gueule, mais j'ai pas de mental.
C'est bizarre, mais ça y va avec.
J'imagine quand même que les nuits qui ont suivi. La nuit qui a suivi, le dimanche soir, je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui.
Mais il n'a pas dû dormir.
Mais comment non. Putain, les trois balles de match qui reviennent, toutes les occasions. T'imagines
c'est trois fautes en plus.
Il fait
trois fautes sur les balles de match.
Trois fautes. Au petit matin, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment tu peux laisser passer un match pareil Alors, je pense que le commun des mortels, moi, je serais déjà, je me serais pendu au bout d'une corde. Enfin, je sais pas. Mais lui, on sent que ce mental est tellement particulier. C'est un homme de fer. Hein. C'est l'Autrichien pur et dur, tu vois, qui n'a peur de rien. C'est Terminator quelque part, même s'il est moins musclé. Et je pense qu'il va s'en remettre, et qu'il va aller le taper. Il va se faire un plaisir et un
oui, mais le taper
d'aller le battre à Wimbledon, oui, mais alors, le 13 juillet en finale.
Taper sur d'autres surfaces. Oui, moi, ce que je me demande, c'est comment il sera marqué sur terre battue, en fait.
Alors, on verra la prochaine. Franchement, ils sont tellement proches sur toutes les surfaces que je sais pas si la spécificité de Roland Garros.
Il a jamais été aussi proche sur terre battue d'Alcaraz que sur cette finale de Roland Garros.
Comment parvenir à oublier ce traumatisme, sans doute que son coach aussi va lui donner des clés pour essayer de les effacer. Moi, ça me rappelle, alors Eric a donné quelques exemples, ça me rappelle moi un Français qui s'appelait Jean-François Cojol. C'était en 1980, il était opposé à Jimmy Connors sur le central. Il avait eu une balle de match contre Jimmy Connors, qui était numéro 2 ou numéro 3 mondial. Et le public, public de Roland-Garros s'était ligué contre Cojol, qui avait perdu ses moyens et qui avait perdu ce match. Et puis l'autre exemple...
C'était horrible. Je me souviens
et il a eu du mal à s'en remettre.
Il s'en est jamais remis.
Voilà. Autre exemple d'un garçon qui a eu beaucoup de mal à s'en remettre, c'est Paul-Henri Mathieu, en finale de la Coupe Davis, face à la Russie. Il mène 2-7-0, 5-4 dans la troisième. Il est à deux points du match. Yuzny. Et il laisse échapper le match et Yuzny s'impose. Ouais, mais Mathieu, qui était considéré à l'époque, Eric, confirme-moi.
Mais là, attendez, laisse finir l'exemple après David.
Les exemples de mecs qui sont passés tout près du grand bonheur et qui se sont fait taper et qui ont eu du mal à s'en remettre.
Désolé, tu peux pas dire Sinner, qui est numéro 1 mondial avec des expériences.
On compare des champions, évidemment Sinner est peut-être d'une autre trempe, mais c'est important de se remémorer aussi ce genre d'histoire qui font que ça peut changer la carrière peut-être d'un joueur de tennis, David Douillet.
Les deux personnages que vient de décrire Christophe, ils n'étaient pas numéro un mondial. C'est moi, ce que je veux dire, c'est que quand tu es numéro un mondial, tu as forcément déjà vécu tout au long de ta carrière, depuis que tu es gamin, ce genre de situation où tu as perdu des matchs face à des garçons, des matchs où tu as eu du mal à t'en remettre. Il a déjà cette mécanique qui est inscrite. Comme Alcaraz d'ailleurs, comme tous les grands champions. Tu peux pas être au top niveau sans avoir déjà vécu, alors dans des moindres mesures, cette mécanique-là. Du truc que tu dois oublier. Donc cette mécanique, il a, et c'est pour ça qu'il oubliera ce match. Alors attention, évidemment, le tiroir, il est plus difficile à refermer quand il s'agit d'une finale de Roland-Garros. Et là où je suis d'accord avec Sarah, c'est que le phénomène du blocage face à quelqu'un peut naître. Je crois qu'Alcaraz était devant lui en termes de match gagné entre les deux avant la finale de Roland-Garros. Et là, ça vient appuyer encore plus le phénomène de « c'est ma bête noire, attention, ça va être compliqué ». Donc, peut-être que ces deux-là, quand ils vont se rencontrer systématiquement, il y aura sans doute, vraisemblablement, un avantage psychologique d'Alcaraz. Mais par contre, quand on s'attache à la personnalité des deux athlètes, force est de constater que Alcaraz est up and down, beaucoup plus que Sinner, qui est quelqu'un qui a un niveau beaucoup plus constant, je dirais. Alcaraz, il est capable d'être en état de grâce, ce qui s'est passé la semaine dernière, Mais l'état de grâce, comme ça, avec des sets qui ne se ressemblent pas, où il y a des grandes différences de jeu, bah peut-être que au long de toute la carrière des deux bonhommes, parce que là on assiste à une dualité qui va durer, je pense, très longtemps, eh bien, ce sera peut-être Sinner qui, au fur et à mesure des tournois, des grands chelems et des matchs, montrera une régularité plus importante qu'Alcaraz, même si Alcaraz le battra plus de fois.
Faut qu'il se dépêche, hein, parce qu'il y a les cinq derniers matchs, c'est pour Alcaraz. Hein. C'est, moi, je veux bien qu'on parle de rivalité, mais quand un mec a gagné les cinq derniers matchs, ah ouais, ça me gêne un peu.
Et en fait, surtout qu'il a gagné zéro match en 5-7. Sinner n'a gagné aucun match en 5-7.
Il n'a pas gagné un match à plus de 4 heures de jeu. Ça aussi, c'est
ce sont deux joueurs, Eric, et je parle sous ton contrôle, mais je pense qu'on s'en est tous rendu compte, qui sont amenés, prédestinés à régner sur le tennis, peut-être pendant 10 ans. On l'espère, mais ouais, il y aura forcément.
Tu veux pas ressortir le débat, je vous ai écouté la semaine dernière, là, sur la qualité de la finale. Je vous ai écouté dimanche dernier. Vous m'avez fait sortir de mes gonds parce que vous disiez que ce duel Sinner-Alcaraz n'était pas comparable.
Attends. Le débat la semaine dernière, c'était on s'est demandé si Sinner-Alcaraz. Bah d'ailleurs, tu étais avec nous, ma Sarah.
Non, j'étais pas avec vous.
Bah si, tu étais avec nous par téléphone quand même. Tu as réagi à ce débat.
Mais pas sur l'autre. Il y avait un autre débat.
Bah, l'autre débat, c'était de savoir si c'était un grand Roland. Et Christophe disait non. Avant cette finale, oui. Pour l'instant, c'est non.
Non, mais j'ai dit c'était un bon Roland, voilà. En attendant la finale, savoir si on va passer du bon au grand.
Et alors,
c'était avant la finale.
La finale qu'on ait eue.
Ce tournoi. Oui, ça. Me dis pas, Sarah, que c'était un grand tournoi avant de voir la finale. Tu retiens combien de matchs dans ce tournoi? Tu retiens la finale. C'est vrai que la finale féminine, ça a été un grand moment du tennis. Ça a été vraiment énorme.
Mais c'est
devenu un grand cru de Roland Garros.
On refait pas le match.
La finale masculine.
Ça a
évidemment.
Été le clou du spectacle.
On refait pas l'émission.
Plus qu'un clou.
J'étais parti, les amis, sur autre chose. J'étais parti sur le fait que ces deux hommes étaient amenés à régner sur le tennis mondial. Et c'est vrai, Eric, que quand on voit ces deux joueurs, on se dit que ce genre de finale, en tout cas les deux en finale, ça va se reproduire de nombreuses fois. Ah oui. Et David l'a dit, quand il y a une graine qui est comme ça mise dans le cerveau,
oui.
Est-ce que ça peut tout changer? C'est-à-dire que si là il se reprend tout de suite à Wim et qu'il gagne Wim face à Alcaraz, je pense que Roland Garros c'est terminé. Mais si,
faut pas que ça traîne. Faut pas
mais s'il
traîne.
Perd de nouveau, là on peut avoir des doutes, non?
Même si sur dur, Sinner est, je pense, oui. Est au-dessus d'Alcaraz. Mais la dernière victoire de Sinner en grand chelem face à Alcaraz, c'était à Wimbledon en 2022. Donc là, il y a peut-être un élément intéressant, mais on a tous hâte qu'il se retrouve face à face sur la scène.
Tout dépend de la capacité d'Alcaraz à se propulser en état de grâce. Parce que cet homme-là est capable de faire ce qui n'est pas capable
de
faire.
C'est un génie, David, c'est un génie.
C'est un génie, mais après, Sinner, il a quand même il a marché dessus par 2-7.
Ouais.
Et c'est là,
oui,
c'est
mais,
là
où tu oui, dis, mais à la Sinner, il ne s'est pas mis... Il s'est pas mis en état de grâce, Sinner, et c'est oui, ce qui lui a fait
mais,
perdre.
Oui, mais, les amis, moi je voudrais savoir, hein. Vous les grands champions, est-ce que pour nous, évidemment, on a vécu un moment de légende, hein, un moment suspendu que l'on ne revivra pas tout de suite.
Jamais.
Malheureusement. jamais, peut-être pas, Eric Salio. Enfin, nous, on est encore jeunes, peut-être qu'on va le revivre. Mais juste, est-ce que pour Sinner, lui, est-ce qu'il fait partie de la légende? Est-ce qu'il fait partie de ça?
Ah bah oui.
Moi, j'ai adoré
sa dignité, sa conférence de presse. Quand il parle de son père, que t'es pas là.
Peut-être, mais quand tu perds
son père bossait, toi, il est chef cuistot, son père, il était pas là, il a peut-être vu la fin de la finale à la télé. Je me dis, mec, il est pas
très bien, mais est-ce que quand tu perds ce genre de truc, on te dit, attends, mais t'as fait partie de la légende, laisse-moi tranquille avec la légende.
Tout le monde en mémoire, la finale à Wimbledon entre Borg et McEnroe, les deux font partie de la légende, ils sont indissociables.
Pour un match de légende, il en faut deux.
Mais est-ce qu'eux, à l'intérieur d'eux, ils se disent, waouh, j'ai vécu un truc magnifique ou non, c'est impossible parce que t'as perdu.
Mais si, Federer, quand il perd sa finale contre Nadal, à la fin de la conf de presse, je me souviens, c'était un confrère, Olivier Poujade, qui lui pose une ultime question, et là il dit... C'est un désastre qui s'est passé. Jamais Sinner n'aurait dit ça.
Ouais.
Federer avait dit c'est un désastre d'avoir perdu cette
finale. David,
mais il était classe non, mais Sinner. Mais
franchement, si tu veux continuer ta carrière, de s'arrêter à dire ah j'ai vécu un match de légende mais j'ai perdu.
Ouais.
Enfin franchement, t'arrêtes tout de suite quoi. Voilà, ça y est, tu ranges tes goals, tu pars en vacances à Ibiza, tu vas faire du bateau avec Alcaraz et au moins ils font un truc ensemble. Mais c'est hors de question. Tu dois gommer de ta tête que tu as perdu un match de légende et sortir de ce truc-là, parce que sinon t'en sors pas. Voilà, et tu perdras tous les autres matchs, c'est évident. Il faut remettre. Quand je donne l'image du tiroir, elle est significative. Quand tu fermes le tiroir, tu le fermes et tu n'y penses plus et tu ne dois plus y penser, parce que si tu y penses un quart de seconde, tu te mets en état de faiblesse.
Mais lui, c'est un vrai désastre.
Tu fais appel à un psy.
Mais non, comment tu fais?
Mais non, mais tu fais.
Mais oui, mais attends, comment tu fais? C'est la recette des grands champions.
Oui,
tu crois qu'ils vont te la donner, leur recette? Elle est personnelle. Elle est en lui. Elle est dans son ADN. Et il y a que lui qui connaît le chemin de cette recette. Elle sera différente d'un autre compétiteur. Donc, il doit comprendre et apprendre à se connaître au plus profond de sa personnalité pour sortir de ça. Et c'est tout le travail d'un grand champion pour rester le plus grand.
Puis il aura des matchs pour essayer d'effacer cette défaite. Mais c'est
vrai que ça s'effacera pas. C'est-à-dire qu'il va falloir continuer après cette défaite.
Il va vivre avec.
Il faut qu'il ferme le tiroir.
Il va vivre avec, mais il faudra quand même qu'à un moment donné.
Sauf qu'il termine sa carrière avec zéro Roland, Sinner.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC, pour réagir en direct, 32-16, touche 1.
Touche 1. Bonjour, c'est Anaïs Castagna.
RMC, Anaïs Matin.
Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour Anaïs Matin de 6h à 9h sur RMC. On va se réveiller ensemble dans la bonne humeur, c'est ma promesse, avec toute ma bande, toute la bande d'Anaïs Matin, Peggy Broche, Thibaut Jean-Grand, Rémi Jacob, les correspondants d'RMC en région et vous, évidemment, au 32-16. De l'info toutes les demi-heures et des invités qui font l'actualité. À tout à l'heure, dès 6h sur RMC.
La semaine prochaine, cap sur le Salon du Bourget, le plus grand rendez-vous aéronautique et spatial au monde, avec RMC. 2300 exposants, 150 aéronefs, des shows aériens spectaculaires et des expériences immersives à partager en famille. Explorez l'espace, découvrez l'aviation de demain, plongez dans les métiers qui font décoller l'industrie et partagez la passion des femmes de l'aéro et du spatial. Journée grand public les 20, 21 et 22 juin. Infos et billetterie sur siae.fr. Le Salon du Bourget, la semaine prochaine, avec RMC.
RMC, Marion Bartoli.
Retrouvez-moi tous les dimanches dès 19h dans Bartoli Time. On revient sur tout le sport de la semaine avec la Dream Team RMC et bien sûr les meilleurs invités. Alors, à tout à l'heure dès 19h sur RMC.
Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ? Sur RMC.
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC, les grandes gueules du sport.
Comment s'appelle le plus jeune coureur de l'histoire aligné
Texas,
sur le
Lexus? Lexus. Lexus.
Sur le Dauphiné.
Lexus.
Ah, Lexus. Lexus. Non, c'est pas ça.
Lexus.
Lexus.
Lexus. Lexus.
Salex.
Salex.
Il a 18 ans. C'est un phénomène, Vincent. Annoncé comme peut-être une star du vélo français. 18 ans. Il fait le critérium du Dauphiné.
Lexus.
Il s'appelle Paul Sexas.
RMC. Le dossier des GG.
Ah, c'était un festival dans le Super Moscato Show. On a tout eu, mais on n'a jamais eu Paul Sexas. On va en parler dans quelques instants, évidemment. Alors, à 18 ans, il a quitté sa province et il est bien décidé à empoigner la vie. On a vu, ça peut faire une bonne chanson, ça. Bon, bref. Mais à 18 ans, il n'est pas encore sûr de conquérir Paris. Même si c'est son rêve, Paul Sexas a fait cette semaine une entrée tonitruante dans le grand monde du cyclisme, à l'occasion donc du Critérium du Dauphiné, où il a fait le match avec les meilleurs dans le contre-la-montre. Il est toujours en train de faire le match, d'ailleurs, sur les autres étapes. Le Lyonnais est champion du monde junior en titre de la spécialité, mais il a d'autres qualités, on va en parler dans quelques instants. C'est le plus jeune coureur de l'histoire du Critérium et il impressionne depuis ses débuts en professionnel. Maria Azé, notre spécialiste cyclisme, notre envoyée spéciale sur les routes du Dauphiné, est avec nous ce matin. Bonjour Maria.
Salut JC, salut tout le monde.
Alors, on veut tout savoir sur Paul Sexus, Sexus, Sexmas, Sexmas, Sextas, Sexas.
Alors, sur le bord des routes, on connaît très très bien son nom. Hein. Ça, par contre, il n'y a pas de problème. Tout le monde commence déjà à dire, il paraît que c'est le nouveau Bernard Hinault. Alors, ce qui impressionne chez Paul Sexas, c'est qu'il n'a que 18 ans. Et quand on est né en 2006, on est normalement plutôt en espoir. Lui, le Lyonnais, s'est vu offrir un contrat par son équipe, la Décathlon AG2R, la mondiale, dès septembre 2024. Il avait 17 ans, après avoir pas mal dominé chez les jeunes. Alors, après une saison chez les pros, marquée par de belles performances, notamment sur Paris-Camembert, où il termine deuxième, et sur le Tour des Alpes, c'est là qu'on l'a vraiment découvert. Son directeur sportif Sébastien Joly envisage le Critérium du Dauphiné comme première grande course.
Rapidement, on a senti qu'il pouvait s'écaler relativement vite et on s'était dit qu'après le Tour des Alpes, en fonction de son comportement et de ses résultats, on pouvait imaginer un plan pour l'emmener sur le Dauphiné. Et au vu de ce qu'il nous a démontré sur le Tour des Alpes, il était relativement logique de le lancer dans le grand bain.
Et on peut dire que l'entrée en matière est réussie, notamment mercredi sur le contre-la-montre où le jeune Français termine 10e. Champion du monde junior de contre-la-montre, Paul Sexas est devenu le plus jeune coureur à terminer dans le top 10 d'un contre-la-montre en World Tour, mais pas de quoi le faire stresser.
C'est une nouvelle expérience, une très belle expérience. Je profite de la chance de pouvoir rouler avec ces grands noms dès ma première année de professionnel. Je sens pas la pression parce que je me la mets pas. Je sais qu'il peut y en avoir, mais honnêtement, je me la mets pas du tout.
Alors c'est que ça a aussi un profil de grimpeur, 1m84 pour 61 kg. Thierry Gouvenou, le directeur du Dauphiné, était impressionné hier après la performance du jeune Français pour l'arrivée à Combloux.
C'est exceptionnel, hein. Déjà de pouvoir monter dans le premier groupe au Mont-Saxonnet, c'était quand même un groupe très restreint. On avait 7-8 coureurs, vraiment le haut du panier, il était présent. C'est vrai qu'à 18 ans, on ne s'attend pas à avoir des performances à tel niveau. Je pense que cette semaine, voilà, ça va être un moment important dans sa carrière. On tient un grand champion avec Paul Sexas.
Mais attention à ne pas brûler les étapes pour son directeur sportif, même si on en parle déjà comme le prochain Français à gagner le Tour de France. Paul Sexas ne sera au départ d'aucun grand tour cette saison.
Non, et c'est à 100%, il ne fera pas de grand tour cette année, il ne fera pas la Vuelta. Pour un coureur comme Paul, gardons la tête froide. Et si ça commence à s'exciter, ça ne va pas marcher.
Alors même s'il ne sera pas au départ du Tour, Paul Sexas enverra un peu un exemple aujourd'hui sur l'étape reine de ce critérium du Dauphiné. 4800 mètres de dénivelé positif, 3 cols hors catégorie, de quoi commencer à tester ses grandes qualités de grimpeur.
Merci beaucoup Maria Azé pour ces précisions. Tu peux rester évidemment avec nous pour ce débat, toi qui connais Paul Sexas. On retiendra aussi cette phrase, hein, si tout le monde commence à s'enflammer, c'est là que ça ne va pas marcher. Est-ce qu'il faut déjà le présenter comme le futur champion français? Je sais, Christophe, depuis quelques semaines, il y a eu cette petite musique où tu nous disais, attention, il y a Paul Sexas, et on ne le connaissait pas vraiment encore, c'était pas son prénom, son nom n'est pas encore entré dans les foyers, mais tu commençais à laisser comme ça quelques
graines. Oui.
Est-ce qu'il faut le présenter comme le futur grand?
Écoute, moi j'ai envie de le présenter comme le futur grand. C'est vrai que la raison devrait nous pousser à plus de prudence,
oui.
À moins d'enthousiasme. Depuis 40 ans, la dernière victoire française de Bernard Hinault sur le Tour, combien de coureurs prometteurs nous ont fait le coup et nous ont fait nous emballer? Les Jeff Bernard, Jalabert, Virenque, Pinot, Bardet, Alaphilippe, tous ces champions, les Français et les journalistes français les ont un jour imaginé remporter le Tour de France, et à chaque fois, malheureusement, ça n'est pas arrivé. Les journalistes de vélo ne sont pas les seuls dans cette situation. Eric, qui était avec nous tout à l'heure dans le tennis, Jean-Luc Roy en Formule 1, on nourrit les mêmes espoirs depuis la fin des années 80. Et cette décennie fantastique pour le sport individuel. Mais aujourd'hui, il faudrait plutôt quitter le sport individuel pour s'occuper des sports co, parce qu'il y a surtout ça qui marche chez les Français. Alors, Paul Sexas mettra-t-il un terme à cette décennie de vaches maigres? Comme avec les précédents, moi j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire sans pour annoncer mordicus qu'il le fera. Mais on est bien obligé de s'enthousiasmer pour ce genre de coureur quand on n'a rien en magasin depuis des siècles. Moi, vous voulez que je fasse quoi, moi, au départ du Tour? Que je vous dise, de toute façon, les Français sont nuls, il va rien se passer, et celui qui va remporter, le prochain Français qui remportera le Tour, il est pas né. Non, à ce moment-là, tu changes de job, hein, tu vas vendre des beignets à la plage.
Oui, sauf qu'en plus,
c'est-à-dire donner
le sur un grand tour, parce c'est ça qui donne la notoriété, qui fait exploser une notoriété d'un coureur cycliste français. C'est-à-dire que là, on a bien compris que c'était trop tôt, mais l'année prochaine, il peut être au départ d'un grand tour.
L'année prochaine, je pense qu'il peut être au départ d'un grand tour, même si dans la tradition française, 19 ans, c'est encore un peu jeune. Faut savoir, Cyril Guimard, par exemple, a fait participer Bernard Hinault à son premier Tour de France à 22 ans. 22 ans. Tu vois, à l'époque, on attendait. Alors maintenant, on nous dit
qu'on voit Pogacar.
Oui, mais Pogacar,
au même âge, à 18 ans, là, il était amateur. Et il était 50e des championnats du monde, junior. Donc, tu vois, l'autre est vraiment dans des temps de passage records pour son âge. Et non seulement, hier, il fait 10e quand même de l'étape de montagne. Il n'est pas très loin. Il est à moins de 2 minutes de Pogacar. Et c'est surtout dans le contre-la-montre, parce que le contre-la-montre, ça a toujours été l'exercice redouté par tous les coureurs français. Mm-hmm. Si Virenque n'a pas gagné le tour, si Pinot ne l'a pas fait, Bardet ne l'a pas fait, c'est parce qu'ils étaient nuls en chrono.
Mais
là, on a un mec qui est hyper complet. Depuis Bernard Hinault, c'est sans doute le coureur français le plus complet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a envie de s'emballer. Après, il va se passer ce qui se passera et on verra bien.
Mais
en tout cas, là, il a tous les éléments en ordre pour s'emballer.
David.
Donc moi, j'ai envie de m'emballer. Bah, oui.
Est-ce qu'il faut s'emballer et est-ce qu'il faut le protéger? C'est aussi ça que sous-tend cette question.
Il est hyper protégé par son équipe. Tu l'as entendu dans le sujet de Marianne. Il n'a le droit de parler à personne. On l'a demandé à l'invité. C'était un petit point. Je te laisse la parole dans une minute.
J'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui.
Non, c'est vrai que t'as pas beaucoup parlé.
C'est que son équipe le protège. Il ne donne d'interview à personne. Ah non, c'est secret. On l'enferme dans une petite valise et on sort la valise juste pour les courses.
David, ton regard.
Je suis heureux de prendre la parole après le champion du monde de la parole. moi, je pense, j'ai malheureusement, moi, je pense qu'il faut le protéger et je pense qu'il faut éviter de s'emballer. Et c'est connexe. C'est-à-dire que l'histoire m'a montré, et je vais faire un passage dans mon sport, tous les types qui ont été les meilleurs mondiaux en junior, très rarement, à quelques exceptions, ça n'a pas été les leaders plus tard en senior. Me demandez pas pourquoi, je n'ai pas la réponse. Probablement parce que peut-être un excès de résultats a fait atténuer peut-être leur faim, leur motivation, etc. J'en sais rien. Peut-être qu'ils éclosent trop tôt et donc ils se fanent trop vite. Voilà, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, je reste extrêmement prudent parce que pour moi, tous les meilleurs juniors n'ont jamais fait les meilleurs seniors. Donc, je pense qu'il faut rester... Il faut rester mesuré et il faut le protéger. Voilà, c'est comme si tu avais une bouteille de vin avec un potentiel extraordinaire et que tu la débouches trop tôt, tu veux y goûter tout de suite. Donc, messieurs les journalistes, les professionnels de la formation, et Dieu sait si on vous aime et qu'on a besoin de vous, mais restez mesurés quand même, soyez pondérés parce que ça sera le meilleur service que vous allez lui rendre à 18 ans, même si au regard de ce qu'il a dit tout à l'heure, ça me rassure un peu parce que le garçon a l'air vraiment d'avoir la tête sur les épaules, et oui. C'est rassurant, c'est très bien. Mais attention, parce que la tête sur les épaules, ça peut être vite déstabilisé. Tu sais très bien ce que ça peut apporter un excès de popularité un peu trop prématurée, où là, d'un seul coup, ta famille se réveille, tes amis se réveillent, les médias se réveillent, etc. Et puis ta vie change.
Je suis d'accord, mais David, il faut pas non plus avoir peur d'être un génie. On en a eu français, Victor Wembanyama, Kylian Mbappé, Léon Marchand. À un moment donné, il faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt en se disant attention, parce que là, on a une pépite, mais attention, on le dit pas parce qu'on va le ressortir qu'à 25 ans. Vous voyez, Denis?
Oui, non, mais les résultats vont arriver, t'inquiète pas.
On a un exemple, il y a des très, très récents avec Lenny Martinez quand même, qu'on a annoncé comme c'était le plus grand champion peut-être français dans les années à venir.
Bah, c'est peut-être le cas. Hein.
C'est le cas, mais on ne le voit pas venir.
Il a fait deuxième du Tour de Romandie il y a 15 jours.
Oui, mais c'est pas là-dessus qu'on l'attend.
Non, mais je veux dire, Lenny, c'est un très bon coureur, mais il est très ciblé sur la montagne. C'est un vrai grimpeur.
Oui, mais c'est le problème, comme tu le dis.
Il a gagné une étape de Paris-Nice, il a été deuxième du Tour de Romandie.
Pour gagner le Tour, on parle de gagner le Tour.
Il a 21 ans.
Oui, mais gagner le Tour, c'est
gagner le Tour. On s'est pas emballé sur Lenny pour gagner le Tour.
On a commencé à s'emballer.
C'est pas vrai. Vas-y, Denis.
Non, mais moi, je pense que...
C'est marrant parce que tu me parles de ça. Figure-toi que je suis en train de préparer des podcasts sur les maillots à poids du Tour de France. Et j'ai eu le grand-père de Lenny Martinez hier, Mariano Martinez, qui avait été meilleur grimpeur du Tour en 78. Je lui ai demandé, c'est qui le plus fort entre Sexas et Lenny? Et ben, il m'a dit, c'est Paul Sexas. Il m'a pas dit que c'était son petit-fils.
Et c'est à découvrir en podcast et sur notre antenne durant le tour en juillet prochain.
Non, vas-y, après ça, pour le coup. On a tous envie d'y croire. Voilà, parce que moi, j'ai adoré le tour de l'épopée de Dino. Moi, j'en ai parlé l'autre jour avec Bernard Hinault quand il est venu à notre émission. Je lui ai dit, moi, j'ai été surpris que tu fasses pas le tour. Enfin, puisqu'il avait programmé Dino en 22 ans, il avait fait le tour. Avant qu'il gagne le tour, en fait, il avait fait toutes les étapes du tour. C'était Cyril Guimard qui lui avait fait toutes les étapes du tour, qu'il avait fait des scores incroyables, des temps incroyables. Et donc, moi, j'aimerais voir Sexas. Au tour, là. Mais il ne va pas y être au tour, déjà.
Non, il ne fait pas de tour cette année.
Oui, mais c'est la première frustration, puisqu'on nous attend le
grand champion. À 18 ans, tu ne peux pas t'engager dans une course de 3 semaines. C'est trop dur. Mais là, par contre, tu vois, Alors, vous voulez pas qu'on s'emballe, mais vous voulez le faire participer à des courses qui risquent de le cramer l'année prochaine,
non,
19
non,
ans.
Sarah, non, mais là, on va s'arrêter, les copains. Sarah, le mot de la fin.
Juste un petit mot pour Paul Sexas qui est en train de briller, qui aurait pu avoir une première course à son palmarès cette année autour des Alpes. Mais il a laissé la victoire.
Nicolas Prudhomme.
Exactement. Son coéquipier, ils ont fait la course en tête. Et on lui a dit dans l'oreillette que c'était lui qui devait gagner. Il a dit non, c'est Nicolas qui le mérite. Et donc c'est lui qui il lui a laissé cette victoire. C'est dire, au-delà des qualités, qu'on a aussi, semble-t-il, un jeune homme qui sait ce que c'est l'esprit d'équipe.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. Tous les week-ends, de midi à 13h, c'est les Paris RMC.
Conseils, pronostics, meilleures cotes, préparez vos paris sportifs du week-end avec la Dream Team Sport RMC.
Les Paris RMC, le rendez-vous des parieurs, tous les samedis et dimanches, midi 13h, avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS. Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC, Anaïs Matin.
L'invité du jour.
Notre invité ce matin, c'est Éléonore Carroix, députée Renaissance des Français de l'étranger, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères.
Pour revenir sur le conflit Israël-Iran et sur ce qui s'est passé au cours des dernières heures après les frappes israéliennes sur l'Iran dans la nuit de jeudi à vendredi, Téhéran a donc répliqué hier soir et ce matin en envoyant des dizaines de missiles sur Israël. Bonjour Éléonore Carroix.
Bonjour.
Est-ce que cette escalade vous inquiète ?
Absolument. Et on a une accélération de l'histoire, une accélération du conflit, une régionalisation d'un conflit qui durait déjà depuis 2 ans. Et là, clairement, on est dans une situation extrêmement dangereuse et préoccupante.
Est-ce que, en tant que député des Français de l'étranger, qu'est-ce que vous avez mis en place pour protéger les ressortissants français qui se trouvent dans la région ?
Alors, il y a eu hier un conseil de sécurité par le président de la République pour à la fois assurer la sécurité des Français sur le territoire national, parce qu'il y a un risque d'attaque sur le territoire national avec le dispositif Sentinelle qui a été remis en place et vraiment des mesures fortes pour assurer notre sécurité en France. Sachez que le programme d'enrichissement nucléaire iranien fait qu'ils ont aujourd'hui des armes qui peuvent atteindre le territoire national. C'est très hypothétique, on n'est pas sous une menace aujourd'hui, mais en tout cas, il faut prendre très au sérieux le contexte géopolitique. Ensuite, pour les Français qui se trouvent dans la région...
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Exactement. Pour les Français qui se trouvent dans la région, il y a des consignes très claires. C'est-à-dire, déjà, prendre toutes les précautions d'usage du pays dans lequel ils se trouvent. C'est-à-dire, pour ceux qui sont en Israël, se mettre dans les abris lorsqu'ils entendent... Enfin, ils ont l'habitude, en réalité, les Français qui vivent en Israël. Pour les Français qui ne sont pas encore là, de ne pas faire de voyage sous aucun prétexte, de reporter tout déplacement dans la zone. Et puis, de toute façon, il n'y a qu'à avoir une carte du ciel. Hier, on voit qu'il n'y a pas d'avion qui traverse cette zone-là. On est véritablement...
Pas de ressortissants français parmi les victimes ?
À ce stade, non, pas à notre connaissance. J'étais hier avec le consul de France à Jérusalem qui a fait un travail incroyable dans le cadre du conflit à Gaza. Lui est en contact, évidemment, enfin, toute notre diplomatie est mobilisée sur le pont pour éviter justement des victimes françaises.
Et qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui devaient se rendre sur place ?
Qu'ils doivent absolument reporter leur voyage, qu'il ne faut absolument pas se rendre sur place. On voit qu'il y a une guerre qui a recommencé sur ce territoire. Et d'ailleurs, le président l'a rappelé hier, on avait 2 otages français, alors dans un contexte tout à fait différent, mais qui sont toujours otages des autorités iraniennes.
En Iran.
Il faut absolument éviter tout déplacement.
Après les frappes israéliennes sur l'Iran la nuit dernière, est-ce que la réaction de la France est à la hauteur ? Emmanuel Macron a réaffirmé le droit d'Israël à se protéger. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où l'Iran a la bombe atomique, a-t-il dit hier. Il affirme que si la France n'a pas participé à la conduite des frappes israéliennes, elle se tient toutefois prête à participer à la défense d'Israël si elle est en situation de le faire. Ça veut dire quoi exactement ?
Cette attaque d'Israël à l'Iran, elle se justifie, en tout cas elle nous a été justifiée comme étant une façon d'éviter une attaque iranienne, l'Iran ayant violé ses obligations internationales en matière d'enrichissement de l'uranium et donc s'apprête à avoir une bombe nucléaire. Donc ça, c'est le narratif israélien. Le président de la République a dit, voilà, j'entends ce que l'on nous dit, j'entends ce qu'Israël est en train de faire. Je n'ai évidemment pas participé à cette action et je ne compte pas y participer, mais il ne faut absolument pas que l'Iran obtienne
la bombe nucléaire. Mais est-ce que la menace iranienne et de la bombe atomique, c'est pas un prétexte pour Israël? C'est ce que disent certains spécialistes de la région. Ils affirment que Téhéran n'allait pas bombarder Israël alors que Tel Aviv a des capacités militaires supérieures.
Moi, j'entends cela aussi. Je vais vous dire, pour le coup, je ne suis pas une spécialiste de l'enrichissement nucléaire iranien et je ne suis pas sur place. Ce que je vois, c'est qu'il y a une escalade de part et d'autre. Il y a l'Iran qui viole ses obligations internationales parce que, pour le coup, on a un cadre très précis et on a Israël qui bombarde de manière
unilatérale. Et certains vous diront qu'Israël a commencé la nuit dernière.
Et de fait, Israël a bombardé l'Iran. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une escalade qui est là, que ce qu'il faut faire, c'est réagir en conséquence. Ce qui est vraiment regrettable, c'est que la France avait entamé un processus vers la paix, un processus qui était en bonne voie avec l'Arabie Saoudite, avec une conférence qui était prévue à New York la semaine prochaine pour la reconnaissance de l'État de Palestine, en embarquant d'autres pays, parce qu'il ne s'agissait pas de faire une reconnaissance unilatérale ou une reconnaissance de papier, et que malheureusement, c'est impossible de tenir cette conférence en l'État, ne serait-ce que parce que les dirigeants palestiniens qui devaient s'y rendre, aujourd'hui, ne peuvent pas bouger de Palestine, de Gaza et de Cisjordanie. Donc, il y a un véritable enjeu à ce qu'il y ait une désescalade et à ce que l'on puisse revenir à une situation, une solution politique. Qu'est-ce que la France essaye de faire dès le début?
J'entends les appels au calme hein, depuis hier. Pourtant, on voit bien la réponse de l'Iran. La diplomatie, elle ne fonctionne pas.
Quand on est dans un contexte de guerre, c'est évident que la diplomatie, elle est en difficulté. Et là, on est dans une guerre.
Non, mais que ce qui se passe depuis la nuit dernière montre aussi que c'est l'échec de la diplomatie, non?
Alors,
diplomatie américaine, et pas seulement.
Et alors, ce qu'on voit hier, c'est que ça s'embrase, mais en une seconde, et qu'on n'est vraiment pas à l'abri d'un embrasement encore supérieur. En revanche, s'il n'y avait pas tous les efforts diplomatiques, si le président de la République n'était pas en contact avec ses homologues en Grande-Bretagne, au Canada, dans les autres pays européens, ce qui s'est passé hier, ce serait peut-être passé avant, et on aurait moins de chances d'avoir un horizon, un chemin. Donc moi, je pense que la diplomatie est absolument nécessaire en toutes circonstances. Il ne faut pas être naïf, là, on est vraiment dans une situation de guerre avec des bombardements. Vous avez vu les images, elles sont absolument terribles. Mais il faut à tout prix continuer cette ligne diplomatique. Et puis surtout, il faut donner une perspective, un horizon et marcher vers la reconnaissance de la Palestine et la reconnaissance d'Israël par les pays qui ne la reconnaissent pas. Parce que c'est la seule solution possible, c'est la solution à deux États.
Merci beaucoup, Éléonore Carroy, députée Renaissance des Français de l'étranger, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, d'avoir été ce matin sur RMC. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.
À vous. Merci.
RMC, 6h-9h.
Anaïs Matin. RMC en direct. Les podcasts RMC et votre musique avec RMC Gold
sont disponibles sur l'appli RMC, Radio Player, TuneIn et toutes vos plateformes de radio.
RMC.
Partout.
Tout le temps. Sur RMC, tous les dimanches de 13h à 15h, c'est Stephen Brunch.
Valentin de la com, il vient me voir, il me dit RMC, on va t'avoir. J'ai dit c'est qui? Il m'a dit Stephen Brunch. Je dis on peut pas refuser.
Invité, news, débat sans filtre, la libre antenne sport du dimanche midi avec Stephen Brun et vous au 32-16.
T'es un mec du footing, toi, t'es un mec du running,
oui,
toi, Nico.
Bien sûr.
Ouais, un peu. Nico qui fait du running alors que quand il était joueur, il courait pas. Bah bravo,
non,
Nico.
Possible.
RMC, Stephen Brunch, le dimanche, 13h-15h.
Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
RMC, les meilleurs moments d'Apolline Matin.
Ce matin s'ouvre à Nice la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan. 50 chefs d'État, 30 000 participants pour mieux protéger collectivement la richesse et la diversité de nos océans. Bonjour Maud Fontenoy.
Oui, rebonjour à tous.
On connaît la navigatrice que vous êtes, Maud Fontenoy, c'est aussi l'avocate de la cause des océans que l'on reçoit ce matin. Vous venez de publier L'océan, source de vie. C'est aux éditions de l'Observatoire. Ce sommet, on en attend des mesures concrètes. Maud Fontenoy, il faut s'attendre à l'équivalent de l'accord de Paris sur le climat cette semaine?
On attend beaucoup, forcément, tous ceux qui aiment les océans attendent toujours beaucoup de ces conventions internationales. Je pense qu'elles sont complètement indispensables parce que ça permet de mettre autour de la table déjà des États du monde entier. Et en plus, c'est chez moi à Nice, donc c'est une grande fierté de pouvoir accueillir ce sommet. Et puis, ça permet surtout de parler des sujets, parce que malheureusement, vous avez vu, l'actualité est dense. Chacun d'entre nous est pris dans ces problématiques. Et du coup, on a tendance parfois à penser que les océans, bah, c'est un peu le truc un peu après. Probablement un peu comme disait Eric Tabarly. Il disait, oh, les Français, la mer, c'est surtout ce qu'ils ont dans le dos quand ils sont allongés sur leur serviette à la plage. Il y avait un petit côté, bon, voilà. Et je pense à tous ceux qui nous écoutent et qui se disent, oui, bah, c'est vrai que les océans, bon, j'aime bien, mais bon, est-ce que c'est vraiment l'urgence? Eh bien, oui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de la protection des océans, on parle de notre santé au quotidien.
Et on parle d'abord de chez nous, tout simplement. Deux tiers de la surface de la planète, la moitié de l'air que nous respirons, on a entendu ces données-là, et vous dites qu'il y a peut-être un peu de difficulté à mobiliser sur la question des océans. Votre engagement, Maud Fontenoy, il est notamment dans la lutte contre la surexploitation des océans. Faut manger, je vais dire ça bêtement, faut manger moins de poissons.
Alors, c'est vrai. Alors, encore une fois, la question n'est pas de montrer du doigt, ni de culpabiliser. La vérité, c'est qu'il faut rappeler les chiffres. Aujourd'hui, la France, nous, on mange 35 kilos de poissons par personne et par an. Bon, 35 kilos, c'est pas mal. Mais surtout, il faut comparer aux autres. C'est-à-dire que l'Union européenne, en général, la moyenne, c'est en 20 kilos de poissons par personne et par an. Et l'Asie, c'est 20, 21. Donc, 35, c'est beaucoup. Et en fait, c'est beaucoup pour notre santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut tout simplement diminuer notre quantité de protéines et varier un peu plus. Et surtout, et c'est ce que j'essaye de faire, notamment, là, on a lancé un kit pédagogique pour mieux manger grâce à l'océan avec le chef Alain Ducasse. Il faut essayer de réorganiser notre assiette. Et il faut un peu plus de végétal, il faut 80% d'autres et juste 20% de protéines. Il faut manger moins, mais mieux.
Et parce que vous allez être carrément sur la disparition des espèces, mais une disparition massive d'ici à 2050.
Beaucoup de scientifiques, c'est vrai, s'inquiètent parce que la question n'est pas de la pêche française. La pêche française, elle prend, il faut quand même penser qu'on prend 1% de tout ce qui est prélevé dans les océans. Mais sauf que le problème, c'est que nous, quand on va acheter notre poisson, c'est pas du poisson français qui se retrouve sur nos étals. Il faut savoir que déjà, un poisson sur deux qu'on mange, c'est un poisson d'élevage. Alors, c'est pas un problème de manger un poisson d'élevage, mais il faut savoir dans quelles conditions il a été élevé. Est-ce qu'il a respecté des normes? Est-ce qu'il a été labellisé? Et puis 98% du poisson d'élevage, il vient d'Asie. Donc il faut savoir vraiment ce qu'on met dans son assiette. Et il faut aujourd'hui avoir des poissons de plus petite taille, parce que les poissons de plus grande taille, les gros, vous savez, les thons rouges, les marlins, les espadons, eux, ils ont accumulé beaucoup plus de toxines, de métaux lourds, et ils sont pas bons à la santé, en vérité. Donc il faut aller vers des plus petits poissons, tels que le hareng, le maquereau, la sardine.
Ça, c'est important là, pour le consommateur d'abord, d'essayer de vérifier l'origine de la pêche, bien entendu, mais peut-être de s'y intéresser un peu plus qu'on le fait jusqu'à présent sur les océans. Et vous le disiez, c'est un peu abstrait pour beaucoup, et manger de la pêche française de petits poissons. Simplement sur cette question de la pêche, Maud Fontenoy, il y a Emmanuel Macron qui, ce week-end, a annoncé vouloir restreindre le chalutage de fond dans certaines aires marines protégées. Alors le chalutage, c'est cette méthode qui consiste à racler le fond marin avec un filet. Il a reçu une volée de bois vert de nombreuses ONG qui lui reprochent de mettre en scène un statu quo, de ne pas faire d'annonce à la hauteur de l'enjeu de ce sommet sur les océans. Vous êtes capable d'arbitrer, Maud Fontenoy?
Non, moi déjà, bon, il a reçu quelques critiques, mais en vérité, bon, pas tellement. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de scientifiques qui sont très, très contents de cette annonce. Moi, je suis toujours de ceux qui pensent que c'est mieux d'avoir un verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Moi, je pense toujours qu'il faut avancer. Vous savez, si moi, j'ai traversé les océans à la rame, j'ai commencé, c'était coup de rame après coup de rame. Ben, mine de rien, avec mes petits bras et l'air de rien, on a réussi à traverser tous ces grands océans. Donc oui, je pense que ça commence petit bout par petit bout. C'est à chacun de mettre sa pierre, c'est à chacun d'agir. Je trouve qu'aujourd'hui, le fait que la France ait décidé d'accueillir ce sommet, c'est un sommet quand même qui a lieu tous les 3 ans dans le monde. C'est tous ces chefs d'État aujourd'hui qui sont là. C'est des décisions fortes sur les aires marines protégées. On espère bien sûr sur cette surpêche, sur le plastique. Là, il y a le traité sur la gouvernance en haute mer qui va être ratifié en 2025. Donc ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel et qu'on attendait depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc oui, il y a des avancées. Parfois, ça va pas assez vite.
Avancez, vous parlez de verre à moitié plein. Maud Fontenoy, je voudrais vous faire écouter le même Emmanuel Macron sur cette question des enjeux et des engagements, notamment de notre pays vis-à-vis de l'écologie. Écoutez Emmanuel Macron, c'était à Nice hier à la veille de ce sommet.
On a un discours ambiant climato-sceptique. On a des pays qui en profitent pour se détourner du combat climatique. Et on a du coup un débat ambiant même dans notre pays. On le voit bien où il y a une forme de recul.
Alors Maud Fontenoy, vous parliez de coup de rame après coup de rame, du verre à moitié plein. Certains vous diront que parfois on a l'impression de faire un pas en avant, deux pas en arrière.
Non, je pense qu'aujourd'hui, le président, il est vraiment convaincu et je pense que toute la communauté scientifique, elle est au chevet des océans et il y a des avancées. Alors, encore une fois, bien sûr qu'on voudrait que ça aille plus vite, mais je pense que ce qui est important, et c'est ce que vous faites ce matin, c'est de rappeler l'importance de sauver ces océans, parce que c'est chacun d'entre nous qui devons comprendre pourquoi les océans, ils sont indispensables. C'est eux, la machinerie qui permet la vie sur Terre. Il y a 20 000 médicaments qui préviendraient du milieu marin. Enfin, c'est des anticancers, des antibiotiques, des antiviraux. Tout ça, ça vient de la mer. Enfin, c'est fascinant, à chaque fois qu'on se penche sur le berceau de l'humanité, parce que les océans, c'est d'abord la vie est née dans la profondeur des océans. Hein, faut quand même
c'est de là qu'on vient tous.
Et oui, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, on retourne au berceau pour y trouver des solutions. Et Thomas Pesquet vous le dirait, attention, notre planète, c'est d'abord une bille bleue qui flotte comme ça dans l'espace un petit peu vide. Donc c'est à nous de préserver ce qui nous est donné. Et malheureusement, aujourd'hui, on est devant le plus beau des musées et on serait presque les pires des conservateurs. Donc oui, il faut investir plus dans la mer. On investit 100 fois plus dans le spatial, finalement, dans la recherche spatiale que dans la recherche océanique. Donc on a besoin de nous
concentrer. Alors qu'en plus, il y a énormément d'inconnus et quand on s'intéresse pour le coup à la question des océans, des abysses notamment, il y a encore beaucoup de choses à explorer. Simplement d'un mot, Maud Fontenoy, vous avez évoqué cette image de vos traversées à la rame, notamment, bien entendu, vous qui connaissez si bien l'océan, vous qui connaissez si bien les mers, vous les avez vues changer, Maud Fontenoy?
Oui, bien sûr qu'on les voit changer. C'est certain que la quantité de poissons, elle diminue. Et c'est certain que l'urbanisation ne fait pas du bien. Mais maintenant, regardez, je reviens, j'ai fait un tournage là sur la Grande Barrière de Corail en Australie. Et la Grande Barrière de Corail qui a été menacée, aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Le thon rouge en Méditerranée, vous saviez, il était en voie de disparition. On a mis en place des quotas, des mesures. Pour ceux qui disent qu'on ne fait jamais rien, il y a eu des mesures. Le thon rouge, aujourd'hui, de retour. Donc moi, j'essaye toujours de ne pas montrer du doigt, mais plutôt c'est d'accompagner ceux qui veulent faire. Parce que de toute façon, je vais vous dire, quand on a l'habitude comme moi d'être face au 40e rougissant, au 50e hurlant, on se dit voilà, faut rester calme et il faut avancer coûte que coûte, et puis on se rassure dans l'action aussi. Hein.
Merci mille fois Maud Fontenoy, et on peut merci aussi saluer dans votre ville de Nice et ailleurs en France le travail de pédagogie que vous faites avec les enfants, notamment s'intéresser à ces océans qui constituent 70% des surfaces de la planète, 50% de l'air que nous respirons, ce sommet sur les océans, je voulais qu'on l'ouvre avec vous Maud Fontenoy. Je rappelle que vous avez publié L'Océan, source de vie, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir pris quelques minutes ce matin pour les auditeurs d'RMC.
RMC, les meilleurs moments d'Apolline Matin.
Encore un drame. On en parlait dans le journal de 8h, bien sûr. Ça s'est passé à Nogent, en Haute-Marne. Un collégien de 14 ans qui a donc poignardé mortellement une surveillante au moment précisément d'un contrôle des sacs supervisé par des gendarmes. Bonjour Jean-Christophe Couvy. Vous êtes le secrétaire national du syndicat Unité. Je voudrais comprendre. On nous a dit qu'il faudra plus de contrôle. Il y avait contrôle. On nous a dit qu'il faudra peut-être des portiques. Mais rien n'aurait changé. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ?
Alors en fait, il y a plusieurs axes de travail, effectivement. Là, on voit bien que les contrôles, alors ça demande du travail supplémentaire aux policiers et gendarmes, parce qu'actuellement, aujourd'hui, il faut qu'on fasse des contrôles partout. Il faut aller contrôler les mosquées, les synagogues, il faut contrôler les chauffeurs de bus, parce qu'il y a eu un accident mortel. Il faut contrôler les points de deal, il faut tout contrôler. Donc, encore une fois, on a un problème d'effectif, mais là, les gendarmes y étaient, sauf qu'en fait... Il y a deux cas d'actes, de passage à l'acte. Il y a le délinquant qu'on connaît, donc c'est l'affaire par exemple Elias, où on connaît les délinquants, on sait qu'ils ont un cursus d'évolution et on n'arrive pas à stopper cette course. Et de l'autre côté, il y a des jeunes qui passent à l'acte alors qu'ils étaient en dessous de la ligne de flottaison, qu'on n'a pas vu arriver. Ou alors il y avait peut-être des signaux faibles, mais est-ce que c'est au sein de la famille? Mais a priori, pas à l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est des choses malheureusement que l'on voit de plus en plus, et je trouve qu'il y a une épidémie justement de ces attaques au couteau. Alors on sait qu'il y a un mimétisme que certaines personnes utilisent justement ce qu'ils voient à la télé ou dans les passages à l'acte pour faire un peu la même chose. Mais voilà, je pense que même les portiques ne pourraient pas tout...
Mais en l'occurrence, j'ai même l'impression qu'on est complètement hors sol. C'est-à-dire qu'on a nos politiques, et ça me frappe évidemment dans les propos de la maman d'Elias hier matin, dans cet entretien qui m'habite encore. C'est-à-dire que je recommande à tous ceux qui n'auraient pas encore entendu les mots de la mère d'Elias de les réécouter en podcast, parce que c'est le réel. C'est-à-dire que là, le réel d'une mère qui a perdu son fils et qui dit « Mais arrêtons en fait d'imaginer ou de parler de manière hors sol. Mon fils est mort. » Et voilà ce qui existe dans notre société aujourd'hui. Et puis, l'après-midi même, on a à nouveau les politiques qui disent portique, fouille, gendarmes, policiers. Mais le portique n'aurait pas sauvé la vie de Mélanie. Puisque non. C'est à l'entrée avant d'entrer dans l'enceinte du collège. Ça n'aurait rien changé.
En fait, on voit bien que le monde politique s'attaque toujours aux conséquences au lieu de s'attaquer aux causes. Si on élimine les causes, il n'y a pas de conséquences. Donc, en fait, encore une fois, il faut s'y intéresser. Les parents victimes sont plongés dans la réalité. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est des actes. Ils veulent, en fait, du pragmatisme. Et aujourd'hui, effectivement, on a des politiques qui sont un peu, à mon avis, sonnées par rapport à ce qu'ils voient autour d'eux, parce qu'ils n'ont pas les éléments pour répondre aux attentes des citoyens. Et c'est ça qui est...
Est-ce qu'ils n'ont pas les éléments ou est-ce qu'il y a une forme de déni?
C'est pas une forme de déni, je pense qu'en fait ils sont vraiment sonnés. Aujourd'hui, on voit nos gamins, ils sont élevés, moi je le dis, hein, par des influenceurs, par des algorithmes. Vous savez pas ce qui se passe des fois dans la chambre de votre enfant. Ils ont accès avec les ordinateurs, les téléphones, etc., à un autre monde. Et vous-même, vous ne connaissez pas leur langage. Quand vous parlez avec eux dans la table en train de manger, ils vous parlent normalement. Mais entre eux, ils ont des codes bien particuliers, des émojis. Regardez la série Adolescence sur Netflix, elle est criante de vérité, parce qu'en fait il y a deux monde, et ce monde-là, on ne le connaît pas parce qu'on est old fashion.
Il est évoqué l'idée de faire regarder cette série, y compris en classe. Ça a été fait dans certains secteurs en Angleterre. Est-ce que vous, qui l'avez vu, vous qui êtes policier, vous qui connaissez ce réel justement, est-ce que vous vous dites oui, ça peut être utile?
Ça peut être utile parce que ça peut être une prise de conscience. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait un but. Là, les enfants, souvent, c'est à peu près le même symptôme. On voit que c'est des enfants, quand les langues se délient, qui sont isolés, qui n'ont pas trop d'amis, qui ne font pas trop de sport, ils sont sur leurs jeux vidéo, etc. En fait, ils sont dans leur monde à eux. Et aujourd'hui, on a un monde où, avec le téléphone portable notamment, on peut avoir accès à plein de connaissances, des connaissances illimitées. Et en même temps, cette communication-là, elle isole les jeunes, elle les isole. Vous regardez aujourd'hui, prenez le métro, je vous ai la réflexion de tout à l'heure, moi je vois que des Teletubbies, tout le monde maintenant aujourd'hui a des écouteurs sur les oreilles, se parlent plus, vivent dans leur monde. Et donc en fait c'est ça aujourd'hui qui est particulier, et on le voit